Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, et bien plus si vous préférez m'écouter en podcast, je vous propose de découvrir un nouveau média d'investigation vidéo lancé en France. Il se nomme Off Investigation.
RFI.
Off Investigation a diffusé le 1er novembre le premier épisode d'une série documentaire consacrée au président français Emmanuel Macron. Plus d'un million de vues en une douzaine de jours sur YouTube. J'ai rencontré cette semaine à Paris le fondateur de Off, Jean-Baptiste Rivoire. On a parlé des ambitions de ce site d'enquête vidéo, de l'investigation dans le paysage audiovisuel français, des pressions que l'exécutif et les oligarques exercent sur les médias dans l'Hexagone.
Alors, quel est le banquier d'affaires français qui court le plus vite dans un escalier quand il est poursuivi par un journaliste?
Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Là, je suis perplexe.
Quel est le ministre français de l'économie qui a vendu nos turbines nucléaires aux Américains en 2014 et qui voudrait les racheter aujourd'hui?
C'est peut-être Emmanuel Macron sous François Hollande, ça. Hein.
Ah, c'était Macron quand il était ministre.
Le ministre de l'économie.
De l'économie.
Quel est le dirigeant européen qui a minimisé son patrimoine et du coup il n'a pas payé l'impôt sur la fortune en 2013 et 2014?
Ah bah ça je savais pas. C'est lui encore?
Mais je pense que c'est toujours Emmanuel Macron, mais je suis pas sûr. Hein.
On fait une petite enquête sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Bonjour Jean-Baptiste Rivoire.
Bonjour Steven.
Vous avez roulé votre bosse dans l'investigation à la télé et vous vous êtes tout récemment affranchi, que dis-je, libéré de la chaîne Canal+, qui a bien changé depuis sa prise en main par l'homme d'affaires Vincent Bolloré à partir de 2015. On y reviendra tout à l'heure. J'aimerais qu'on commence par parler de Off Investigation, ce site d'information, ce site d'investigation en vidéo que vous fondez. Donc, vous avez décidé d'enfiler une casquette d'entrepreneurs après des refus de la part de chaînes françaises à qui vous proposiez une enquête sur les parts d'ombre d'Emmanuel Macron et de son action. Expliquez-moi.
Mais en fait, regarder ce que fait le pouvoir exécutif avec une distance et un regard critique, c'est tout à fait normal. C'est notre boulot de journaliste. La dernière fois que moi j'avais essayé de le faire, en fait, à Spécial Investigation sur Canal+ en 2016, c'était la fin du mandat de François Hollande et des producteurs nous avaient proposé beaucoup de projets vachement bien sur les effets pervers des guerres de François Hollande, par exemple, ou les failles des services antiterroristes en France face aux attentats de 2015. Et on s'était dit, c'est la fin du quinquennat, il faut questionner la politique de Hollande, on va lancer tout ça. Et là, la nouvelle direction de Canal nommée par Vincent Bolloré a arrêté quatre enquêtes qui pouvaient être embarrassantes pour le président Hollande. On n'a pas du tout pu les faire. Et donc, après, moi, j'ai un peu protesté contre ces censures de la direction de Vincent Bolloré. J'ai été mis dans un placard pendant 5 ans à Canal+. J'ai compris qu'on ne pouvait plus faire d'enquêtes qui dérangeaient le pouvoir exécutif depuis cette chaîne. Et quand j'en suis sorti en 2021, j'étais très content. Je me suis dit, on va refaire un projet qui questionne un peu les pratiques du président. Ça tombe bien, on est à la fin d'un quinquennat à nouveau. Bon, là, c'était Macron. Et donc, j'étais content. On a proposé un projet sur Emmanuel Macron à toutes les chaînes. Et là, toutes les chaînes ont refusé, en fait. M6 nous a dit, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous a dit, on a déjà un projet, certes un peu différent. Arte nous a dit, ça n'intéresserait pas les Allemands. France Télévisions a dit, on a déjà un projet, donc ça suffit. Enfin, voilà. Et du coup, on s'est dit, mais c'est pas possible que le système de l'audiovisuel français soit verrouillé à ce point par soit des milliardaires qui ont pris le contrôle des chaînes privées, soit un service public qui dépend tellement du gouvernement français qu'il ne peut plus faire grand-chose sur le gouvernement français. Et on s'est dit, il faut absolument sortir de là, aller voir la population et dire, il faut vraiment qu'on fasse de l'info, de l'investigation audiovisuelle indépendante. Donc, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est que vous le financiez, quoi.
J'imagine que ce n'est pas uniquement ces refus-là qui vous ont poussé à lancer votre propre entreprise de presse. Il y avait aussi, cette idée, elle devait vous trotter dans la tête depuis quelques mois, quelques années même, non?
Alors, pour rentrer un peu dans le détail, moi j'ai commencé à bosser quand j'étais jeune à France 2 et France 3. Donc j'aime bien le service public. Après, c'est vrai que assez vite, je me suis retrouvé à l'agence Kappa qui faisait du grand reportage. Et c'est vrai qu'assez vite, Kappa était proche de Canal+, qui était une chaîne privée très particulière, puisque comme l'argent venait pas tellement des annonceurs publicitaires, mais des abonnés, c'était le premier Mediapart de la télé, Canal, il y avait un modèle économique qui faisait que, franchement, pendant 10-15 ans, on a eu une vraie liberté de bosser. On pouvait rentrer dans les banlieues parce que les mecs nous respectaient, parce qu'on leur tapait pas sur la tête comme Télé Bouygues, TF1 à l'époque. On pouvait aller à l'étranger. Enfin, franchement, le fait qu'on ait cette liberté conférait à la chaîne une bonne image. Moi, je suis passé par 90 minutes, par Le Vrai Journal de Carl Zéro, etc.
Donc, il y avait un contrat avec les téléspectateurs.
Il y avait un contrat avec les abonnés, c'est-à-dire que comme ils finançaient 60, 70, 80% de cette chaîne, on bossait pour des abonnés. Et en fait, quand on travaille pour des abonnés dans la presse, pour ses lecteurs, comme Mediapart par exemple, eh ben, c'est plus facile de respecter ses lecteurs. électeurs que quand on est financé par des annonceurs publicitaires qui veulent pas qu'on enquête sur leur business ou par un État qui peut être tenté de contrôler le média. Donc on a eu vraiment une liberté éditoriale à Canal. C'était un peu une exception, une histoire française. Canal avait été créé sous Mitterrand, André Rousselet, tout ça. En 2015, cette exception s'est terminée. La norme actionnariale a repris le pouvoir. Vincent Bolloré a pris le pouvoir dans Vivendi et il a remis au pas Canal+. Et là, à partir de là, je pense que ça devenait très compliqué de faire de l'investigation en télévision privée, certainement, mais même dans le service public audiovisuel en France. Il faut savoir que depuis quelques années, la botte de l'exécutif est quand même très très forte sur la tête des dirigeants de l'audiovisuel public et ça rend parfois difficile certaines enquêtes sur le gouvernement.
Parlons de cette série documentaire donc proposée par Off Investigation. Elle est consacrée au président français Emmanuel Macron. Vous prévoyez une dizaine d'épisodes. Ça s'intitule Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Le premier épisode est un documentaire de 45 minutes signé Yanis Mamdi. Il met en cause Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée, qui était déjà un collaborateur d'Emmanuel Macron quand ce dernier était ministre de l'économie. Pourquoi démarrer sur un épisode comme ça, sur une personnalité comme celle-ci?
Alors, il y avait plusieurs possibilités. Au début, on pensait, parce qu'on va avoir un épisode sur l'affaire Alstom, qu'on pense appeler affaire Alstom, la France à vendre, ou la France sous contrôle étranger. L'affaire Alstom, c'est le fait qu'en 2014, la branche énergie du groupe Alstom, qui fabrique notamment les turbines de nos centrales nucléaires, ait été vendue à l'américain General Electric. C'était donc une importante perte de souveraineté industrielle. En plus, les Américains avaient dit, on va créer 1000 emplois. Résultat des courses, ils en ont supprimé 4000 et il y a des délocalisations. Donc, cette affaire nous a paru un peu emblématique du fait que sous François Hollande, et ça a continué ou Emmanuel Macron, il y a une tendance parfois à sacrifier la souveraineté industrielle française au nom d'une mondialisation poussée à l'extrême. Et la question, au bout d'un moment, c'est pas est-ce qu'il faut pas un tout petit peu aussi réfléchir à protéger un peu les intérêts français en France, en tout cas. Le problème, c'est qu'en fait, comme il y a une nouvelle mission de France 3 qui a fait quelque chose autour de l'affaire Alstom, on s'est dit que c'était pas un très bon timing. Donc, on a plutôt poussé un autre de nos épisodes qui s'appelle l'affaire Colère, qui a un gros avantage, c'est que on va raconter un petit peu comment on a raconté comment le numéro 2 de l'Élysée, en fait. Hein, le secrétaire général de l'Élysée, depuis plusieurs années, mélange un peu ses casquettes entre être au cœur de l'État, où il est censé défendre l'intérêt général des citoyens qui ont élu le président, et puis une autre casquette, mais inavouée, il ne l'a jamais dit, où en réalité, il est lié à la famille qui contrôle la compagnie maritime italo-suisse MSC, géant mondial, numéro 2 mondial du transport maritime de marchandises. Et en fait, au cœur de l'État, il a passé son temps à arbitrer des décisions qui pouvaient avoir un impact très positif pour MSC. Cette compagnie italo-suisse a bénéficié de très importantes subventions d'argent public français, plus de 2 milliards d'euros, alors qu'elle est basée en Suisse, où on paye peu d'impôts. Et donc, on a un peu voulu questionner les pratiques au cœur de l'État. Alexis Keller est le bras droit du président Macron. Macron le sait pertinemment, l'a défendu, a fait des courriers en sa faveur pour le protéger. Mais le conflit d'intérêts de Keller est tel que des enquêtes ont été ouvertes. Le gouvernement a essayé de les classer sans suite. Et l'association Anticor a mis son poids dans la balance pour que la justice enquête sur cette affaire. Voilà pour nous typiquement un problème de conflit d'intérêts au cœur de l'État qui était un peu trop à l'abri de la curiosité médiatique.
Vous démarrez donc par taper sur l'Élysée et taper sur une des personnalités clés de l'Élysée. Il y avait plus facile comme premier sujet pour lancer un média, non ?
Alors, franchement, en fait, les différents épisodes, on va évidemment revenir sur la violence pendant la crise des Gilets jaunes. Hein. C'était une révolte née d'une réforme fiscale. Le président Macron commence par supprimer l'impôt sur la fortune, puis il augmente les taxes sur le carburant. Donc, il y a plein de Français qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont du mal à remplir leur réservoir avec du gasoil tous les jours. On leur explique que c'est eux qui vont payer plus cher. Il y a eu une colère très forte en France en 2018, la révolte des Gilets jaunes. Évidemment, on aura un épisode là-dessus, mais ça a été, pour le coup, un peu traité, beaucoup traité par d'autres médias. Voilà, on va avoir d'autres thématiques. On va travailler aussi sur Macron et l'Algérie. Pourquoi a-t-il fait des déclarations aussi complaisantes à l'égard du régime algérien dès avant même son élection, hein, puisqu'il va à Alger en février 2017 pour dire « la France a commis un crime contre l'humanité pendant la guerre d'Algérie ». C'est très bien que la France balaye devant sa porte et regarde lucidement son histoire. Il serait temps qu'elle le fasse sur l'affaire algérienne. Après, c'était tellement outrancier, cette déclaration, qu'on s'est dit « c'est un peu bizarre ». Il a rencontré quand même beaucoup de milieux d'affaires algériens sur place, de puissants hommes d'affaires qui financent la vie politique algérienne. Donc, on va essayer de voir si par hasard ils n'auraient pas eu envie de financer un petit peu aussi la vie politique d'Emmanuel Macron. Donc voilà. Donc il y a plusieurs épisodes possibles. C'est vrai que l'affaire Colère tape au cœur de l'État, mais je pense qu'un des regards à porter sur ce pouvoir macroniste qui quand même a un peu tendance à concentrer un immense pouvoir au sein du palais présidentiel. On peut pas dire que le Parlement en France soit très respecté. On peut pas dire que la presse soit très respectée. On peut pas dire que la justice ait les moyens de faire son travail. Donc c'est un peu effrayant. Je trouve qu'on est dans une dérive autoritaire en France, avec un garçon qui est vraiment un joli garçon, jeune, très sympathique et tout, mais qui quand même nous embarque dans une espèce de violation du contrat républicain qui me paraît très grave. Donc l'affaire Colère était un bon exemple pour mettre les pieds dans le plat.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Ce premier épisode de votre série documentaire a finalement été diffusé sur Blast, le média lancé au printemps dernier par Denis Robert. Je l'avais d'ailleurs reçu dans l'atelier des médias tout début avril. Ce premier épisode, qui là, en quelques jours, au moment où on se parle, a quasiment déjà 1 million de vues sur YouTube. C'est sacrément encourageant.
Écoutez, moi, je suis un vieux, je viens de la télé, donc j'ai du mal à évaluer les chiffres, mais il paraît que c'est bien 1 million de vues sur YouTube en une semaine. Ce que ça me fait penser, c'est que je me dis, mais il y a vraiment un immense besoin de la part des citoyens d'avoir de l'investigation audiovisuelle indépendante, manifestement, parce qu'on a eu beaucoup de messages d'encouragement, et c'est vrai que beaucoup de gens ont regardé ce truc-là. Ça raconte quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une offre audiovisuelle de journalisme en France, évidemment, en radio et en télévision, mais on sent qu'il y a besoin, plus que jamais, notamment en ce moment, parce qu'on arrive en période présidentielle, de parler peut-être que d'autres choses, juste que d'Éric Zemmour toute la journée, et qu'on a peut-être besoin de regarder juste qu'est-ce que ce pouvoir qu'il a depuis 5 ans a fait en termes de pratique à l'intérieur du système, en coulisses. Parce que le problème, c'est que les grands médias contrôlés, soit par les milliardaires, soit sous la coupe de l'État, parfois peuvent avoir un peu tendance à nous embarquer vers des faux sujets, monter en épingle des histoires qui sont périphériques. En revanche, ils sont beaucoup moins présents pour enquêter au cœur de l'État. Tout ce qui est investigation est de plus en plus bâché, remercié, c'est cher, soi-disant ça n'intéresse pas les gens, tout ça c'est n'importe quoi, mais c'est un discours qu'on entend énormément. Donc il n'y en a quasiment plus dans les chaînes privées, il y en a de moins en moins dans l'audiovisuel public en France. Donc c'est absolument vital. Si on ne fait pas d'enquête, si on ne fait pas d'investigation, si on ne va pas chercher des infos sur les pouvoirs, qu'ils soient politiques et économiques, on ne fait plus notre boulot. Et c'est pas tout à fait par hasard en France si maintenant on se fait casser la figure dans les manifs et on est obligé d'y aller avec des gardes du corps. Moi je trouve ça surréaliste. Enfin, je veux dire, j'ai fait 15 ans de grands reportages dans le monde, on n'est pas en Irak, on n'est pas à Malte où on assassine les journalistes parce qu'ils ont enquêté sur la corruption, et pourtant les journalistes français se sont tellement laissés aller à perdre un peu leur indépendance éditoriale que maintenant une partie de la population les déteste. Donc c'est vachement grave. Il faut qu'on bouge, quoi. Après, on peut pas non plus reprocher à la population de nous en vouloir si elle a le sentiment qu'on fait de la propagande. Il faut qu'on fasse notre boulot. Le problème, c'est qu'on est coincé économiquement par un système que les politiques français ont laissé dériver vers un système où l'indépendance éditoriale n'est plus du tout garantie, quoi.
Alors justement, en introduction et en outro du premier épisode de votre série, il y a un texte défilant qui est lu et qui démarre par « Les chaînes de télé se méfient de l'investigation ». Vous dites « les chaînes de télé », comme certains disent « les médias », en les mettant tous dans le même panier. Est-ce que c'est pas un petit peu une erreur là aussi ?
Alors, il faut savoir que moi, enfin, comme j'avais un peu de temps dans le placard où m'avait installé Vincent Bolloré, en attendant que je signe une clause de silence que je voulais pas signer, donc ça a été un peu long, parce qu'on est têtus tous les deux. Enfin, lui, il est breton, puis moi, je suis pas breton, mais je suis têtu aussi. J'ai fait une grosse enquête sur la coulisse des médias en France. J'ai travaillé 3 ans. Où j'ai ramassé un peu tout ce que j'avais glané comme info de coulisses, que ce soit à France Télé, j'ai beaucoup d'amis à France Télé, que ce soit à Canal, que ce soit dans les chaînes privées. Et franchement, je pense qu'on peut dire aujourd'hui, malheureusement même Arte, toutes les chaînes françaises aujourd'hui ont un vrai coin aveugle, c'est-à-dire qu'elles peuvent enquêter sur tout un tas de sujets, enfin, je veux dire, encore une fois, France Télé et Arte font des trucs formidables, hein, sur des tas de sujets très internationaux, etc., un peu sur l'économie. Élise Lucet, Cache Investigation, fait un travail formidable depuis 10 ans. Je me les suis tous scriptés pour le bouquin, donc je peux vous dire que j'en ai visionné 60 et c'est un travail formidable. Je pense que sur le pouvoir exécutif en France, il y a un peu plus un coin aveugle, c'est plus difficile parce que les médias privés veulent pas s'aliéner le président. Leurs propriétaires ont besoin d'être en bon terme avec l'État, et parce que France Télévisions a une présidente, Hélène Delphine Ernotte, qui dépend beaucoup de sa tutelle et pour son financement, son budget et pour la nomination des dirigeants de France Télé. Pour un dernier exemple en date, Darmanin, encore il y a quelques mois, jouait un peu aux sarkozistes de base en disant on pourrait peut-être supprimer la redevance. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est une espèce de chantage, c'est une espèce de menace. On fait comprendre que Élise Lucet commence à vraiment énerver l'exécutif, alors on pourrait supprimer la redevance. Enfin, le pouvoir exécutif passe son temps à mettre sous pression l'audiovisuel public par des menaces de lui donner moins d'argent, et ça, c'est quelque chose qui fait que l'audiovisuel public dépend fortement du gouvernement. Donc oui, je suis désolé, les télés se méfient de l'investigation. Moi, je l'ai constaté un peu dans toutes les télés récemment. Après, voilà, c'est pas...
Donc on est sur RFI, là en gros ce que vous dites c'est que l'audiovisuel public reçoit aussi des pressions qui sont surtout de façon monétaire, en gros des suppressions de budget, des coupes dans les budgets qui font qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour faire de l'investigation de qualité ou parfois pour faire de l'investigation tout court.
Alors en tout cas le gouvernement en France a entre les mains la possibilité de modifier le montant de la redevance, de demander des économies au service public, par exemple Sarkozy est arrivé, souvenez-vous en 2007, première chose qu'il fait, ah ben on va faire un truc super, qui était exactement ce que voulaient ses amis TF1, on va supprimer la publicité à France Télévisions. Bon, c'est une révolution, on va amputer France Télé de quoi 40% de ses ressources, donc Patrick de Carolis s'arrachait les cheveux, bon, il a la possibilité de faire ça, donc ça, ça met le service public dans une très forte pression, voilà, la redevance. Par ailleurs, la fable du CSA qui serait indépendant pour nommer les présidents de l'audiovisuel public, c'est n'importe quoi. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'assoupissement. Ça fait des années qu'il fait dodo. Nous, on l'a saisi 15 fois de très graves dérives qui se déroulaient à Canal+. Je rappelle quand même que Vincent Bolloré s'est servi de Canal+, à un moment donné, pour diffuser des publi-reportages clandestinement sur des dictateurs africains avec lesquels il espérait signer des contrats. Et dans ces publi-reportages, on nous expliquait que c'était des gens formidables qui garantissaient une stabilité politique, par exemple au Togo, alors qu'il y avait depuis des mois des dizaines de milliers de manifestants dans la rue qui se faisaient tirer dessus par les forces de l'ordre. Donc, on se moque du monde. On a saisi le CSA 10 fois, il s'est quasiment rien passé. Donc, en fait, oui, malheureusement, oui, le pouvoir exécutif en France a des moyens de pression très forts sur l'audiovisuel public, et il y a des gens formidables à Radio France et ailleurs, et à France Télé, mais ils sont tout le temps sous cette pression. Je rappelle, par exemple, que pour ce qui est de Radio France, il y a eu très longtemps un formidable confrère qui s'appelle Benoît Colomba, qui faisait de l'investigation, mais il me racontait encore récemment, je faisais ça pendant mes vacances et la nuit. Et j'étais l'un des seuls à pouvoir le faire. Alors après, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Ils ont créé une cellule investigation à Radio France. Ils sont quelques-uns, c'est très bien. Il y a eu l'œil de 20h au 20h de France 2. Bon, on gratte un peu plus. Enfin, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Face à tous ces constats, vous dites que pour financer les enquêtes et ces enquêtes-là que les chaînes refusent de lancer, il ne nous reste plus qu'une seule solution, faire appel aux internautes, aux auditeurs, faire appel au grand public. Au moment où cet entretien est diffusé, vous avez lancé une campagne de financement participatif le jeudi 11 novembre sur la plateforme KissKissBankBank pour Off Investigation. Donc, jusqu'à la mi-décembre, vous espérez récolter 180 000 euros. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est peu. Pour de l'investigation en vidéo, non ?
Alors, effectivement, sortir de la télé pour faire de l'investigation audiovisuelle sur le web, c'est un enfer, en fait, parce qu'il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les chaînes de télé qui contrôlent très étroitement leur contenu, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles ont beaucoup d'argent, puisque, par exemple, chaque Français paye chaque année 160 euros à peu près pour la redevance, et que la publicité rapporte beaucoup d'argent aux chaînes privées. Donc, sortir de ça, de ce confort, c'est extrêmement difficile, on n'a pas de modèle économique. Donc, nous, pour l'instant, on n'a pas dit, comme Denis Robert avec Blast ou autre, les gars, financez-nous, on lance un média, ça va être super, parce que je pense qu'il y a une petite difficulté de modèle économique, on est moins ambitieux, on a moins de moyens que ces gens-là, on est moins connus aussi. Donc on a plutôt dit aux gens, financez un projet, alors ça peut être un documentaire sur ce sujet que personne ne fait, ça vous paraît important, ok, allez-y, contribuez, on va le faire. Demander à 60 millions de Français de sortir 100 000 euros pour un documentaire, ça me paraît pas impossible. Et là, on a fait un peu de petite variante, on propose de financer une série d'investigations sur le président Macron, qu'on fait à des coûts très réduits, on est en mode guérilla, on travaille avec des bouts de ficelle, donc ça coûte 3 fois moins cher qu'Envoyé spécial, par exemple, mais il faut quand même, pour faire 10 épisodes, 180 000 euros. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver ? On ne sait pas. C'est aussi, si vous voulez, une façon d'enquêter sur les parts d'ombre des présidents français Macron, mais c'est aussi une façon de mettre un peu les pieds dans le plat pour poser la question du financement de la formation audiovisuelle en France et de l'investigation qui se réduit à la portion congrue. Et donc, c'est une façon de s'adresser à la population pour dire, au-delà de notre cas, tiens, il y a un vrai problème, il y a une vraie question. Et s'adresser aussi aux médias pour dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on parle un peu de ça ? Parce qu'une société dans laquelle il n'y a plus beaucoup de journalistes qui ont le temps de gratter, d'enquêter, de vérifier, d'aller contre les courants dominants, c'est une société qui est en très grand danger démocratique, quoi.
Au printemps, Blast, dont on parlait tout à l'heure, a recueilli plus de 920 000 euros sur la même plateforme, KissKissBankBank, un record. Mais Blast proposait de financer un projet. Là, vous vous proposez justement de financer une série documentaire qui en plus vise directement le président de la République. Est-ce que vous n'avez pas peur que, au final, les gens ne soient pas là pour valider votre approche, mais plutôt mettre de l'argent pour taper sur un mec, en l'occurrence le président de la République ?
Alors, je ne sais pas qui va donner, ceux qui ne vont pas donner. Il y en a peut-être qui vont donner pour taper. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas boxeur, en fait. Moi, je suis juste journaliste. Donc, nous, on va faire un travail pas complotiste, sérieux, rigoureux. Enfin, voilà, 15 ans d'investigation à Canal, je peux vous garantir qu'on a été bien élevés, parce que même avant Bolloré, les mecs, ils étaient prudents. Donc, c'était carré. Il y avait une avocate qui nous surveillait très étroitement, des rédacteurs en chef partout. Il fallait faire très attention. Donc, on a appris à être prudent. Donc, on fait du journalisme d'enquête.
Oui, c'est quoi la promesse, justement, aux gens qui vont financer cette série documentaire?
L'idée, c'est de regarder Emmanuel Macron avec distance, regard critique, en essayant d'enlever tous les fils à la patte qui, d'habitude, entravent un peu notre profession. Ça peut être « Ah, je veux pas m'aliéner le diffuseur parce qu'après, j'ai un autre projet que je voudrais placer. » Ça peut être plein de choses. Je veux dire, c'est quand même risqué de s'attaquer à un président de la République pour essayer de raconter vraiment qui il est. C'est très difficile. Donc nous, on est parti de ça. On a lu tous les bouquins de confrères qui avaient travaillé très approfondis sur Macron. Je pense notamment aux excellents bouquins de Marc Endeavour, qui a fait 3 livres sur Macron, qui, dès 2015, fait un bouquin sur lui, qui a senti que ce type allait arriver, qui connaît bien les réseaux. Donc on s'appuie sur des gens de Mediapart, Laurent Mauduit, Martine Range, qui ont fait des boulots formidables. Et puis après, on développe, on contacte des gens. Là, on a contacté une cinquantaine de grands témoins, dont un certain nombre ont accepté de parler. L'idée, c'est de raconter un certain nombre d'épisodes peu connus du pouvoir d'Emmanuel Macron, de questionner son pouvoir. Par exemple, les limites de Jupiter, c'est voilà un président qui est arrivé en se laissant surnommer Jupiter, voire qui était fasciné par Louis XVI, donc il a poussé très très loin la logique présidentielle de la Ve République instaurée par De Gaulle en 58 dans une situation de guerre d'Algérie. Je ne sais pas moi si aujourd'hui, dans la France de 2021, le plus moderne, le plus efficace, c'est d'avoir un espèce de type qui est au-dessus et qui dit « je vais tout décider ». Je pense moi qu'il faut qu'on aille plus vers une implication des citoyens, des processus de décision plus collectifs, plus démocratiques. Donc ça, par exemple, c'est une question qu'on va poser. Jupiter, il y en a d'autres. Il y a des histoires qui concernent des contrats d'armement et des coulisses et des problèmes de commissions occultes. Je vous donne juste un exemple. On a parlé récemment d'un grand contrat raté avec des sous-marins en Australie. Nous, on va explorer une autre histoire beaucoup moins connue. En 2017, des responsables politiques belges veulent acheter 35 avions Rafale en France. Ils contactent un marchand d'armes français qui est habitué à bien gérer ce genre de contrat et à les remercier très généreusement pour leur choix. Et ce marchand d'armes contacte Dassault et essaye de lancer le contrat. Et là, il va se passer des choses très inattendues. Beaucoup d'intermédiaires vont s'incruster pour essayer de toucher des commissions bizarres. Et jusque-là, c'est normal. Sauf que ce marchand d'armes français va contacter l'Élysée, appeler au secours pendant des mois, envoyer des recommandés en disant « Attendez, il faut enlever ces intermédiaires suspects qui me contactent au nom d'un certain Alexandre de jury. » Et on pourrait penser que l'Élysée, à ce moment-là, nettoie les écuries d'Augias et s'assure que le contrat fonctionne dans les intérêts de l'industrie française. Et pas du tout. Pendant plus de 14 mois, l'Élysée reste totalement silencieux et le contrat des Rafales avec les Belges, 3,5 milliards d'euros, va foirer. Par exemple, ça, on va essayer de comprendre pourquoi ça a raté, pourquoi les macronistes n'ont pas bougé. C'est ce type de questions aussi qu'on va poser sur les coulisses de la 5e. On a une importante corruption dans notre pays. Il faut quand même aussi explorer ces thèmes-là, quoi.
Jean-Baptiste Rivoire, vous lancez Off Investigation pour l'instant avec vos fonds propres, en attendant que l'argent du financement participatif arrive. Avez-vous provisionné des fonds pour les procès qui pourraient vous attendre ?
Alors, dans le making-of qu'on a tourné, il y a une blague, c'est que je fais une boutade à l'équipe, on n'est pas nombreux, on est 4-5, hein, je leur dis, ça c'est 180 000, c'est le prix de la série, ça c'est avant les procès, parce que si Macron nous fait des procès, on met la clé sous la porte, je dis ça en rigolant, et un des gens de l'équipe, Yannis Mamdi, répond, mais t'es fou, ça faut le couper au montage, parce que si on leur dit ça, ils vont se dire, ok c'est bon, on leur fait un procès et on va les couler, et je lui dis, oui t'as raison, on va le refaire. Évidemment que si Bolloré, Bernard Arnault, Macron et tous ses amis décident de nous coller devant les tribunaux, les procédures Bayon en France sont une pression extrêmement forte exercée contre les journalistes. On l'a vu avec Benoît Colombat qui est harcelé depuis 2009 par Vincent Bolloré qui est encore maintenant, 12 ans après, devant une cour de cassation. On l'a vu avec Tristan Vallex qui a eu le malheur de faire un portrait de Vincent Bolloré sur France 2. Ça a été jugé suffisamment grave pour qu'on lui fasse 5 procès et on lui pourrisse sa vie pendant 4 ans. Ça a coûté des dizaines de milliers d'euros de frais d'avocat à France Télévisions, donc aux contribuables. Donc on est conscient de ce risque-là. Mais il y a un moment donné, si vous voulez, c'est tellement grave de laisser étouffer du journalisme libre parce qu'on a peur des procès, qu'au bout d'un moment, moi j'en ai marre, on va juste faire notre boulot, et puis, s'ils nous envoient du papier bleu, s'ils nous collent au tribunal, s'ils menacent des témoins africains pour pas qu'ils viennent témoigner à Paris, comme c'est arrivé, je rappelle juste une anecdote, mais quand même qui est collector, quand Vallex est poursuivi par Bolloré pour son portrait de Vincent Bolloré et de ses activités en Afrique, il se retrouve traîné devant les tribunaux, et un jour, il doit aller chercher un témoin africain à l'aéroport qui va venir témoigner en France sur la façon dont Bolloré se comporte en Afrique. C'est le seul qui a osé venir, tous les autres se sont découragés suite à des pressions. Ce témoin africain est courageux, Il se cache dans son pays pour prendre l'avion sans se faire casser la figure. Il arrive à Paris, il est content. Et là, Valex ne peut pas aller le chercher à l'aéroport à Paris. Pourquoi ? Parce que dans la nuit, de mystérieux marabouts ont envahi son appartement, ont changé ses serrures, l'ont enfermé chez lui. Et lui et sa femme ne peuvent pas sortir de l'appartement. On est la veille d'un procès Bolloré. Donc il ne peut pas aller chercher son témoin africain à l'aéroport. France Télévisions va missionner des gardes du corps pour protéger Valex et son témoin africain. Donc ça, je veux dire, il y a un moment donné, ça suffit. On ne peut pas laisser faire ça dans notre pays. Ou alors, on n'est plus dans une démocratie, on est dans un régime mafieux. Et donc, ça suffit. Et donc, il faut dire vraiment ce que fait Macron. Et puis, s'il y a des procès, eh ben, moi, j'expliquerai au juge que, contrairement à ces messieurs, je n'ai pas 100 000 euros par mois pour payer mes frais d'avocat. Moi, je vais terminer chauffeur de VTC si ça continue. Donc, je n'ai pas d'argent pour payer les avocats. On a en France une justice qui est censitaire. Il faut savoir que les pauvres ont quand même beaucoup de mal à se retrouver, à faire défendre leurs droits devant les tribunaux. Bolloré, lui, voilà, il peut très bien payer ses avocats. Il pèse des milliards d'euros. Moi, non. Donc, après tout, s'il veut m'envoyer au bagne, me couler jusqu'à la fin de mes jours ou je sais pas quoi, eh ben, il le fera. Mais nous, on ne fermera pas notre bouche, quoi.
Micro-test 1-2. Le genre qu'on gère est un mystère qu'ils ont pas découvert. Je persévère, balance du son façon trop sévère. Le faux devient vert et aussitôt il en persévère. Façon persévère, je veux pas que mon fils devienne mercenaire. Je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Visionnaire, missionnaire, idée fixée, prêt à vexer. Si ton questionnaire commence à me plaire, j'opère pépère. Si tu fais l'affaire, frère, ta part du bénéfice, faut que tu récupères. Un monde austère, mes chers, les poings, les coudes et les dents. Ris pas résident, ça semble évident. Pertinent, qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que du sang froid qui distant. Pertinent, qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort. Pertinent, qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, que du sang froid qui distant. Pertinent, qui écrit une lettre au président.
Ouais. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences.
Ma façon d'envisager le rap est élémentaire. Par contre, quand j'ai fini mon couplet, c'est sans commentaire. Documentaire, comme la BU de la fac de Nanterre. Mensonge, on enterre, envoie les mauvais songes en enfer. Persévère, pour qu'unité soit entité, que la réussite choque. 1, 2, ça suffit pas, ça me suffit pas. J'en veux plus, des frères qui réussissent, des pneus qui crissent, des virages, que nos voeux ne soient plus des mirages, des visages joyeux, paysages joyeux, mon vieux, mieux, vaut tard que jamais j'y eux. T'avoue que je crois pas au monde merveilleux ici-bas. Les belles images, c'est pour Sony et Toshiba. Paris-Bas, passe à l'action, fais mon boulot. Remplace tease et bêtises par montée de l'oscilloscope. 5 ans prévu pour droite et l'extrême, je m'incruste en intru, envoie l'instru, me v'là sur la scène. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, tu sens froid, tu distant. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu fort. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang froid, tu sens froid, tu distant. L'impertinent, celui qui écrit une lettre au président.
Ouais. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI, je suis avec Jean-Baptiste Rivoire, fondateur de Off Investigation. Jean-Baptiste Rivoire, dans un entretien à Télérama, il y a quelques jours, vous avez déclaré, je vous cite, « Sur Internet, il manque de vraies enquêtes filmées ». Expliquez-moi ce que vous voulez dire par là.
Moi, j'ai eu la chance de bosser pendant 15 ans ou 20 ans à la télé, où il y avait des moyens, et on faisait de l'investigation filmée, pour donner un chiffre, hein, 52 minutes d'investigation à la télé, ça coûte au minimum 100 000 euros. Quand c'est un doc plus ambitieux, enfin, Cache Investigation a des budgets encore plus importants. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Tous les gens qui en ont eu marre de se faire censurer dans les grands médias et qui sont sortis du système pour créer des médias indépendants, je pense à Edoui Plenel de Mediapart, je pense à Denis Robert pour Blast, sont plutôt des gens de culture presse écrite, Le Monde, Libé, qui ont créé des médias formidables. Mais c'est difficile de faire de l'investigation de télé parce que ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher, c'est long à monter. Donc en fait, c'est beaucoup plus difficile que de tricoter un article de presse écrite ou juste une interview. Et donc, ces médias indépendants financés par la population, qui sont pas très riches, qui sont pas financés par la pub, peuvent difficilement financer de l'investigation télé, et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est confrontés à cette équation économique difficile. Comment financer l'investigation chère sur le web audiovisuel? C'est quasiment impossible. Mais voilà, moi j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait un peu casser les modes de production traditionnels de l'ORTF en France. Il faut savoir que quand De Gaulle imposait qu'il n'y ait qu'une seule chaîne de télé, il y avait un monopole, il y avait une censure terrible, ça pouvait coûter cher, de toute façon il n'y avait pas de concurrent. Bon. Dans les années 90-2000, à l'agence CAPA, moi un jour on m'a dit, tu veux faire une enquête sur les moines de Tibérine assassinés en Algérie, t'as que 3 jours de tournage, donc là tu as déjà utilisé tes 3 jours de tournage avec ton caméraman. Bon. J'ai dit, mais si je prends une petite caméra numérique et que j'y vais moi-même faire le survivant au Maroc, c'est possible ou pas? On m'a dit, oui, si tu vas faire tout seul, c'est un peu moins cher. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi essayer de fabriquer de l'investigation audiovisuelle un peu moins chère, pour que ce soit citoyen, pour que ce soit possible. Le problème de fabriquer très cher, c'est qu'on est toujours obligé de demander à un publicitaire ou à l'État de nous financer, et on retombe dans les problèmes de dépendance. Donc voilà, donc on va essayer de faire de l'investigation audiovisuelle, de les vraies enquêtes filmées sur Internet. Après, je ne dis pas qu'on est meilleur que les autres, nos aînés sont extrêmement talentueux, je ne dis pas qu'on va y arriver, c'est très cher, je ne sais pas si la population pourra payer ça. Mais c'est une façon de poser le débat, de dire, voilà, il faut absolument faire... Voilà. Et le succès du premier épisode, qui effectivement a fait bientôt maintenant 1 million de vues en quelques jours, moi, je me dis, ça veut dire que la population a un besoin très important d'investigation audiovisuelle indépendante. C'est pas qu'il n'y en a pas à France Télé, c'est juste que beaucoup de gens maintenant se méfient des grands médias, et voilà, il y a une soif de ça, et il n'y en a pas forcément sur les sites d'infos indépendants qui se sont lancés, ou pas beaucoup.
Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ils se disent peut-être qu'il y a déjà des sites internet qui existent, qui font du reportage, de l'enquête en vidéo. On pense à Spicy, par exemple. Qu'est-ce qui vous a inspiré en créant un off-investigation? On se doute que quand on lance un média, on fait ce qu'on appelle un benchmarking, une étude de marché pour regarder ce qui existe, ce qu'on peut reprendre, et puis comment faire ça à sa sauce. Vous avez cité Mediapart, vous avez cité Blast. Vous, comment va être structurée justement votre approche et votre modèle économique face à tout cela?
Alors, on n'a pas encore de modèle économique. Pour l'instant, c'est vraiment une première pierre du projet. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, est-ce que vous voulez financer cette série? L'idée aussi, c'est de faire une promesse aux gens qu'on va être capable de tenir. Parce qu'on va faire un super média, ça va être super bien. Donnez-nous tous de la thune. Et puis après, dans un an, il n'y a plus de sous. Bon, je me méfie un peu de ça. Donc, nous, on dit, voilà, on c'est ça qu'on vous propose. Un documentaire, une série. On a besoin de tant d'argent. Et si vous nous versez cet argent, on va le faire. Et de fait, on va le faire. Bon, après, au printemps 2022, si on y arrive, l'étape suivante, c'est OK, alors maintenant, on fait quoi? On n'a pas de modèle économique, on n'a pas forcément d'abonnement, donc on va réfléchir à des possibilités de proposer à des gens qui nous auraient soutenus de s'abonner au site pour la suite, de venir en mode soutien, un peu comme Street Press, c'est-à-dire, je trouve que le projet est bien d'un point de vue citoyen, donc je décide de mettre 5 balles, 10 balles tous les mois pour le soutenir. Moi, je pense qu'il y a une telle colère dans la population que ça peut fonctionner, on peut avoir un petit modèle économique comme ça, et après, essayer de faire vivre ce site qui doit obtenir son statut de service de presse en ligne, donc obtenir quelques avantages fiscaux en France, une TVA réduite. Mais pour ça, il faut poster des articles d'actualité régulièrement. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'audiovisuel, donc il faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui viendrait faire un peu le chef des infos et nous aider à piger des confrères en presse écrite. Alors, on n'aura pas beaucoup d'argent, mais on aura un avantage, comme nos confrères des sites d'infos indépendants, c'est qu'a priori, on pourra travailler sur tous les sujets intéressants sans avoir peur de grand monde.
Et les aides du CNC, vous pourriez les toucher aussi?
Alors, le CNC, il faut savoir un truc, par exemple, pour la série Macron, tant que vous n'avez pas un diffuseur télé, c'est extrêmement difficile d'avoir un soutien du CNC. Par ailleurs, je précise que le CNC est dirigé par un monsieur qui est l'un des grands donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, donc un soutien macroniste. Donc, on a à la tête du CNC, qui est censé subventionner l'audiovisuel et le cinéma en France, quelqu'un qui est un soutien politique et financier du président Macron. Donc, autant vous dire qu'en fait, on n'a même pas pris le temps d'aller envoyer des dossiers de subvention au CNC, parce qu'on pense qu'on n'aura pas grand-chose, en fait.
On le disait en introduction, Canal+, vous y avez passé beaucoup de temps, c'est quasiment 20 ans de votre vie, vous étiez notamment rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation, donc figure de l'investigation dans le groupe. Que reste-t-il de Canal?
Eh bien, écoutez, je pense qu'en tout cas, l'esprit Canal a été éradiqué, saboté pour des raisons politiques. Il reste une chaîne de plus en plus orientée à droite. Il reste une chaîne dont, de mon point de vue, l'éthique ne correspond pas à ce qu'elle était. Juste une petite anecdote à ce propos, on a vu publiquement Vincent Bolloré monter au pouvoir de Vivendi et de Canal en 2015, et puis ensuite il va répudier les auteurs des guignols de l'info, censurer l'investigation, mettre sous pression le zapping, et finalement tordre la chaîne info du groupe dans une direction politique de droite qui l'arrange. Mais ce qu'on n'a pas beaucoup vu, et en enquêtant pour le livre L'Élysée et les oligarques contre l'info, que les éditions Les Liens qui libèrent publieront en janvier, 3 ans d'enquête sur les pressions sur les journalistes sous les quinquennats Sarkozy, Hollande et Macron, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. C'est qu'en fait, Sarko est exaspéré par Canal+, médias indépendants, depuis des années et des années. Et quand il était président de 2007 à 2012, il était exaspéré. Et non seulement ça, mais il passait son temps à se plaindre à la direction de Canal, aux actionnaires de Vivendi, des guignols, etc. Bon. Sauf que même président, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il voulait parce qu'il y a quand même une tradition d'indépendance dans cette chaîne. Et l'actionnaire de l'époque, Fourtou, qui était un chiracien, avait un peu peur d'étrangler les guignols de l'info. Bon, ça, voilà. Il s'était révolté en 2002, ils avaient envahi le CSA, Bruno Gassiot et sa bande faisaient peur à tout le monde. Donc, ils n'y arrivent pas. Et Sarko tape des pieds pendant tout son quinquennat en disant « Mais faites quelque chose, j'en peux plus, surtout que je voudrais bien être élu en 2012. » Et en 2011, Jean-René Fourtou, l'actionnaire de Vivendi, vient dire à Nicolas Sarkozy « Écoutez, ce que vous faites est tellement formidable, cher Nicolas, il faudrait qu'on crée un groupe pour vous soutenir. » Et là, Sarko lui fait comprendre que, bah oui, mais enfin, vos guignols sur Canal m'énervent, donc faites quelque chose déjà de balayer devant votre porte. Bon, Fourtou n'y arrive pas, il crée un groupe secret pour faire réélire Sarkozy. Il va faire rentrer dedans Jean-Christophe Thierry, qui est le monsieur média du groupe Bolloré, et tout ce petit monde va intriguer pour essayer d'aider Sarko. Et en septembre 2011, le grand public a compris que Bolloré vendait ses deux chaînes gratuites au groupe Canal. Ah bon, il se désengage de la télé, etc. La vraie histoire, c'est pas ça. La vraie histoire, c'est que Fourtou, ne sachant plus comment gérer les impertinents de Canal, a fait rentrer Bolloré au capital de Vivendi, avec probablement dès le départ l'idée que Bolloré allait être le nouveau patron, qu'il allait grignoter le capital de Vivendi au fil des années et qu'il allait au final prendre enfin le contrôle éditorial de Canal pour aider en fait son ami Nicolas Sarkozy à continuer sa carrière politique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bolloré prend le contrôle de Canal en 2015, éradique l'esprit Canal, et à l'époque Sarko va être candidat pour 2017. Il chutera ensuite en 2016, mais en 2015, je pense que le projet secret de Vincent Bolloré, c'était vraiment d'étrangler Canal pour que Sarko puisse revenir dans la politique française, Nicolas Sarkozy.
Depuis, s'est passé pas mal de choses. Je n'ai pas précisé que vous avez été élu SNJ-CGT, représentant des salariés, donc au comité d'entreprise de Canal+, qu'à ce moment-là, vous aviez pu constater déjà qu'en matière de déontologie d'éthique, c'était compliqué et ça devenait compliqué au sein du groupe. J'imagine que ce qui se passe actuellement au sein de CNews, cette chaîne qui donc rassemble des éditorialistes et qu'on peut clairement étiqueter d'extrême droite, ça vous révolte?
Alors, il y a deux façons de voir les choses. On peut dire, en gros, c'était un média de gauche, c'est dégueulasse, c'est devenu un média de droite. Moi, je ferais pas cette critique-là, parce qu'après tout, Vincent Bolloré a le droit d'être de droite. Moi, je suis plutôt sensibilité de gauche humaniste ou écolo, mais je veux dire, toutes les idées sont respectables. C'est pas tellement ça la question. Ce que j'ai ressenti, moi, au cœur du groupe, plutôt, c'est une espèce de dévoiement complet de l'information. Nous, on s'est battu, souvenez-vous que les journalistes d'ITélé se battaient pour avoir une charte de déontologie qui leur était refusée. C'est-à-dire, non, on va pas faire de la communication, non, on va pas faire des ménages, non, on va pas passer des interviews de patrons pour faire semblant que c'est de l'information. Enfin, c'était ça leur combat. Autrement dit, on doit garder un minimum d'honnêteté parce que sinon on va se discréditer auprès de la population et on va se faire lâcher dans les manifs. C'était quand même ça leur problème. Et on avait en face un actionnaire, Vincent Bolloré, qui campait sur ses positions en disant faites la grève 6 mois si vous voulez, de toute façon je céderai pas. Moi j'y croyais pas, manque de bol, c'est lui qui avait raison. Ils avaient tous des enfants, des familles à nourrir, ils ont tenu 1 mois sans être payés, ils ont tous craqué, il y en a 110 qui sont partis. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment sur la déontologie que ça s'est passé. Bolloré a voulu mettre Jean-Marc Morandini en tête de gondole d'une chaîne d'information alors qu'il avait un problème avec des mineurs. Il voulait absolument le faire. Ensuite, il y a eu Éric Zemmour qui a quand même été condamné au moins 2 fois pour incitation à la haine raciale. Incitation à la haine raciale. Alors, pendant des mois, à l'intérieur du système Canal+, la direction nous disait « Mais attendez, il n'est pas encore condamné définitivement. Il est présumé innocent. » Ça a duré près de 12 ou 14 mois. Et puis à la fin, quand il y a eu des condamnations définitives qui sont tombées, on leur a dit « Vous mettez donc en tête de gondole de votre chaîne d'info quelqu'un qui pousse à la haine raciale. Quel est ce projet politique ?» Mais le problème, si vous voulez, c'est que Bolloré, il est plus puissant que nous, il a plus d'argent, il s'en fiche. Et surtout, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Que fait la police? Qui fixe les règles du jeu en France? Il y a quand même en principe des règles. Un actionnaire ne peut pas entraver une liberté éditoriale pour défendre ses intérêts d'actionnaire, comme l'a fait Vincent Bolloré. C'est interdit. Sauf que personne ne fait respecter la loi. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'assoupissement. Et François Hollande et Emmanuel Macron, depuis des années, ont totalement laissé faire, voire encouragé, cette mainmise de grands industriels sur les médias pour les étouffer. C'est juste absolument effrayant. Donc là, à un moment donné, moi, je me suis inscrit contre les censures de Bolloré et d'autres. Il y a Bernard Arnault, il y a Arnaud Lagardère qui a mis complètement Paris Match au service du pouvoir exécutif. Sarkozy, puis Macron. On a vu les derniers développements avec l'affaire Michel Marchand et la soi-disant rétractation de Ziad Takeddine, qui est un parfait scandale. Mais je veux dire, au-delà de ces puissants milliardaires sur lesquels il est assez facile de taper, que font nos élus? Moi, je n'ai pas voté pour Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. J'ai voté pour un président de la République et j'attends de lui qu'il défende l'intérêt de ce pays et l'intérêt des Français et l'intérêt de la démocratie. Et ils ne le font pas. Et c'est là qu'il y a un problème très grave.
Donc justement, votre solution, enfin à votre avis, quelle est la solution face à cette concentration des médias en France? Il faut que les politiques fassent leur boulot. Ça se joue, à votre avis, au niveau du président, mais aussi au niveau des autres élus à l'Assemblée nationale?
Alors, il serait temps que les politiques se préoccupent de ce problème qui entache, entrave, handicape lourdement la démocratie. Et puis c'est très grave, parce que vous avez une population qui finit par être dans une colère à l'égard d'un certain nombre de grands médias parce qu'elle a le sentiment qu'ils relayent de la propagande, donc elle n'y croit plus, donc elle va chercher sur Internet des informations alternatives, donc elle tombe entre les mains des complotistes. Après, quand quelqu'un donne une vraie info, plus personne la croit parce que les journalistes sont discrédités. Enfin, on est dans un truc qui est hyper dangereux en termes de démocratie. Donc oui, les politiques, les candidats à la présidentielle en 2022 doivent absolument prendre à bras le corps ce problème et se prononcer là-dessus. Je crois que le collectif Informé n'est pas un délit va leur demander à chacun de se positionner par rapport à cette question majeure de la liberté des médias en France. Après, bon, Julia Cagé fait partie des gens qui pensent qu'il suffit de donner, enfin, on va donner une boîte à outils aux politiques et ils vont régler le problème parce qu'en fait, c'est qu'ils n'auraient pas d'outils. Moi, je suis un peu plus pessimiste. Je pense que malheureusement, cette situation se fait en parfaite complicité avec Emmanuel Macron. Je rappelle quand même que, par exemple, quand Brigitte Macron crée une école pour que des gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance à l'école puissent s'en sortir et trouver un travail, c'est le groupe LVMH, Bernard Arnault, qui finance entièrement cette école, propriétaire des Échos et du Parisien. Donc, il y a une consanguinité entre des intérêts financiers et les politiques qui pose vraiment problème. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir que Emmanuel Macron, demain, réinstaure une démocratie saine en France. En revanche, je pense que de créer et développer des médias indépendants pour essayer de mettre les pieds dans le plat, ça, oui, ça, c'est un aiguillon qui peut faire bouger le système parce qu'on voit bien que la population est exaspérée, qu'elle soutient tous les levées de fonds pour des médias indépendants de manière massive. Hein. Qui aurait pu imaginer que Denis Robert lèverait 1 million d'euros ? Personne. Le média avant lui, historiquement lié à la France Insoumise, avait levé, je crois, près d'1,8 million. Donc, on voit bien que dans la population, il y a un ras-le-bol, il y a un besoin. Les gens ont besoin de démocratie, besoin de citoyenneté, besoin d'une information indépendante. Ils font pas mal confiance au service public. Mais là, il faut que dans le privé, on crée des médias indépendants. C'est pas possible, quoi.
Jean-Baptiste Rivoire, vous préparez pour janvier 2022 un livre qui paraîtra aux éditions Les Liens qui Libèrent. Son titre sera L'Élysée et les oligarques contre l'info. En texte de présentation de l'éditeur, on trouve l'expression système médiatique français, système et pas écosystème qui pourrait-on croire. L'écosystème plutôt se régule, il y a un certain équilibre. Avez-vous l'impression, avec Off Investigation, de quitter le système médiatique français ?
Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre comme sens sur le système, mais ce qui est vrai, c'est que, encore une fois, moi, j'ai travaillé à France 2, j'ai travaillé à France 3 en région, j'ai travaillé pour TF1, j'ai travaillé pour M6, j'ai travaillé pour Canal+, j'ai fait des bouquins. Donc, en termes d'audiovisuel en France, j'étais vraiment au cœur de ce système. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est historiquement 3-4 chaînes de télé, aujourd'hui un peu plus, qui font l'audiovisuel en France. Hein. C'est-à-dire, le cinéma, c'est encore un autre monde. Donc, moi, j'ai vécu 20 ans au cœur de ce système. Et donc, j'ai enquêté quelque part au cœur de ce système parce que la plupart de mes copains sont dans ce système. Et donc c'est ça que je vais essayer de raconter de l'intérieur. Après, la question, c'est est-ce qu'en créant Off, on en sort ? Bah, quelque part, oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, le problème des gens qui sont dans ce système médiatique et télévisuel, c'est qu'ils peuvent difficilement leur raconter à l'extérieur ce qui se passe dedans, parce que si vous commencez à raconter ce qui se passe vraiment à l'intérieur, bah, vous allez vous aliéner les principales chaînes de télé. Quand vous êtes journaliste télé, bah, vous n'aurez plus de boulot. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde... Moi, j'ai plein de confrères en France qui sont exaspérés par le fait que plein de projets ne passent pas. Personne ne le sait, c'est très insidieux, ça se passe sous le radar, et tous mes copains peuvent pas protester parce que s'ils protestent un tant soit peu contre ce qui est devenu un monopole, France Télévisions, demain, ils pourront plus passer leur nouveau projet. Donc ils sont tous furieux, beaucoup sont furieux, frustrés, mais ils peuvent pas parler. Un petit mot là-dessus, jusqu'en 2015, vous aviez quand même Canal+, qui aiguillonnait un peu France Télévisions, dans lequel moi j'ai plein de copains, et France Télévisions, il y avait plusieurs pôles, plusieurs guichets, vous aviez France 3, France 2, France 5, donc un projet refusé par France 2 pouvait passer à France 3, pouvait passer sur Canal, il y avait un tout petit peu de concurrence. À partir du moment où Bolloré a étranglé l'investigation sur Canal en 2015, il y avait les trois pôles de France Télé, mais R-Note était quand même en gros en position de monopole, ce qui n'est jamais très bon pour le pluralisme. Et surtout, en 2019, elle a créé un guichet unique du documentaire dans lequel elle a installé une dame qui s'appelle Catherine Alvarez. Et en fait, ça permet quand même de contrôler très bien les entrées dans le système, puisque si vous dites non... À part Arte, qui est un peu marginal, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc oui, il y a un système qui est très verrouillé aujourd'hui. Off est clairement en dehors de ce système, puisqu'on est obligé aujourd'hui, pour faire de l'info indépendante en télé, enfin je veux dire, d'aller vers la population pour essayer de demander des fonds. Donc on est en dehors du système, on est presque même en train de tomber dans le ravin, quoi, clairement. Après, on peut considérer que de plus en plus, les médias indépendants qui se sont créés font partie du système, parce qu'en fait, ils sont en marge du système, mais ils contribuent peut-être à aiguillonner le système. Je pense notamment à Mediapart. Et donc, de toute façon, on est tous dans un système. Hein, je veux dire, on est tous dans la société française. Simplement, on peut être au cœur du système ou un peu en marge, en train de lui mettre des pichenettes. Moi, j'ai longtemps bossé à l'agence Kappa. Hervé Chabalier, c'est quelqu'un qui avait un peu un esprit libre et indépendant. On n'était pas dans les chaînes. On proposait des reportages aux chaînes, des nouvelles façons de filmer, des nouvelles façons de voir la réalité, d'être au plus près des gens, ce qui à l'époque était un peu subversif. On prenait des gens simples, normaux, on les suivait pendant 24 heures et on considérait que leurs paroles pouvaient avoir autant d'intérêt qu'un ministre. Donc moi, j'ai toujours conçu ce métier un peu comme ça, comme un peu un aiguillon pour bousculer un peu, déranger le système. J'ai jamais vraiment été dedans. Canal était quand même un peu en marge des chaînes classiques. Et donc, disons que je fais partie du système, mais j'essaie de modestement d'aiguillonner un tout petit peu quand on peut, quoi.
Dernière question, vous avez cité à plusieurs reprises Mediapart, on a cité Blast, vous auriez aussi pu citer Street Press. Est-ce que l'idée de faire des coproductions entre ces différentes entités pourrait faire sens pour vous ?
Alors absolument, moi j'ai un peu regretté, si vous voulez, des conflits très forts entre grands médias indépendants qui se sont créés ces dernières années, notamment à gauche. Je pense que globalement, mais on avait le même problème à Canal, on est quand même dans une civilisation où l'individualisme est très fort, où on a tendance à regarder son nombril, je pense notamment à Canal+, si vous voulez, le discrédit des syndicats et de toute organisation collective est tel que en gros, les cadres et les salariés à Canal, l'idée de se mettre ensemble face à un actionnaire qui nous étrangle, c'était impensable. Chacun se voyait tout seul dans son silo. Et donc, c'était très facile pour les DRH de convoquer un salarié en disant « Tu protestes contre la censure, mais tu sais, toi, tu as un problème, en fait, un peu psy quand même. Hein. Faudrait que tu réfléchisses un peu à ton attitude. Il faudrait accepter la modernité. Tu comprends, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Tu vois, t'es un peu... Faut accepter quand même que les choses bougent. Hein. Bon, alors, je protestais contre la censure. Fallait accepter la modernité. Bon, voilà. Mais si vous voulez, bon, ben, moi, je me suis pas trop fait avoir. Mais il y a plein de gens qui ressortaient brisés du bureau de la DRH en disant, mais oh, c'est moi, j'ai un problème, je suis nul. Oh, j'ai tellement de chance. Elle m'a filé 2000 euros pour que je m'en aille. Mais qu'est-ce que j'ai de la chance? Bon, on l'a vu 20 fois. Donc, on a tous collectivement ce problème. Alors, heureusement, la nouvelle génération recrée du lien, du collectif, se bat pour le climat. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Les jeunes journalistes qui bossent sur Off, ils ont 20 ans de moins que moi, ils sont top. Et ça recrée du collectif et ça me fait hyper plaisir. Mais voilà, il faut absolument qu'on se regroupe ensemble. Et donc, pour revenir aux médias indépendants, moi, je suis pour des partenariats, je suis pour que tous les gens estimables bossent ensemble, pas forcément tous couler dans le même moule, mais qu'on coopère. Et d'ailleurs, quand on a fait pour ce premier épisode un partenariat ponctuel avec Blast, qui a déjà une grosse communauté de donateurs et qu'on nous a conseillé de bosser avec eux parce que peut-être ça allait être vertueux, j'ai remarqué plein de commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient « C'est super que Blast file un coup de main à un nouveau média. C'est super de voir ces nouveaux médias indépendants s'entraider, se tenir les coudes, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. » Il faut savoir que vu les murs qu'on a en face de nous, je veux dire, si on pouvait en plus ne pas se disputer entre médias indépendants, franchement, je pense qu'on serait beaucoup plus fort.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Rivoire.
De rien, merci à vous.
C'était Jean-Baptiste Rivoire, fondateur de Off Investigation. Plus d'infos sur off-investigation, sans s.fr. Et la campagne de financement participatif a été lancée jeudi sur la plateforme KissKissBankBank. C'est bientôt la fin de cette émission et comme chaque semaine, c'est avec Mondoblog Audio qu'on va la clore. Sur Mondoblog, la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI, il a beaucoup été question ces dernières semaines de la COP26. Vous savez, la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tenait à Glasgow. Fumilayo Asanvi, mondoblogueur béninois particulièrement prolifique, a écrit un conte engagé dont il nous a lu un extrait. Une histoire, je cite, « malheureusement inspirée de la réalité dont vous reconnaîtrez tous les acteurs ».
Au départ, elle était rayonnante et généreuse. Tout fonctionnait bien. Personne ne s'inquiétait. C'était une parfaite collaboratrice. Elle les nourrissait, elle les abritait, elle se rendait disponible. Les terres, les mers, les animaux, les arbres, l'air, la pluie, c'était elle. En fait, c'est grâce à elle qu'ils vivaient. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils étaient tellement gourmands et insouciants qu'ils se sont dit « Profitons-en au maximum ». Au début, elle n'a pas réagi, mais leur désaccord allait grandissant. Elle connaissait la valeur du temps. Elle aimait observer les saisons, tandis qu'ils étaient impatients. La Java de plus en plus démente qu'ils avaient instaurée tout en profitant d'elle ne lui a pas plu. Il leur fallait toujours tout, tout de suite, et ils ne lui demandaient jamais son avis. Elle a commencé à se sentir mal. Pourtant, elle était bien la seule sur qui il pouvait compter. Mais il ne voulait pas le voir. Il continuait à consommer sa richesse sans réfléchir, comme pour croire à un rêve d'abondance infinie. Ils lui en ont tellement fait subir qu'elle est tombée malade. Aujourd'hui, son état s'est considérablement dégradé. Elle respire mal et est complètement déshydratée. À voir son état, c'est évident qu'il faut la mettre au repos. Sinon, ils vont finir par la tuer. Comment les convaincre qu'il faut arrêter de la maltraiter? Comment leur dire qu'ils sont en train de ruiner nos conditions de vie sur Terre? Sale temps pour la planète.
Mondoblog.org.
C'était Fumilayo Asanvi, mondoblogueur béninois, dont le blog est nommé cette année aux Afrobloggers Awards dans la catégorie activiste, notamment pour ses articles sur l'environnement. Vous pouvez le lire et écouter ses podcasts sur son blog fumi.mondoblog.org, mondoblog audio qui était orchestré comme chaque semaine par Camille Deloche. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon de Creuse que je remercie. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, je vous rappelle qu'il est disponible à l'écoute en podcast chaque samedi avant même sa diffusion à la radio. Pour n'en rater aucun épisode, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Une adresse mail pour contacter l'émission atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.